France Culture, Affaires culturelles, Arnaud Laporte.
Ce soir, je reçois la comédienne et réalisatrice Sandrine Kiberlin. À 19h40, affaire critique, Lucille Comeau nous parlera du film Tout fout le camp, Sébastien Betbédé. 19h45, affaire en cours, en quoi la pandémie a-t-elle bouleversé durablement notre rapport au temps? C'est l'historien François Hartog qui donnera à Marie Sorbier quelques éléments de réponse. Et à 19h50, affaire à suivre en compagnie ce soir de la compositrice Kaya Sahariao. Le tout est réalisé par Alexandre Fougeron avec Grégory Wallon et Valentin Bobinet à la prise de son. Bonsoir Sandrine Kiberlin.
Bonsoir.
Très heureux de vous accueillir alors que vous êtes à l'affiche depuis ce matin du nouveau film d'Emmanuel Mouret, chronique d'une liaison passagère. On se rappelle aussi qu'au début de l'année est sorti votre premier film en tant que réalisatrice, Une jeune fille qui va bien. On parlera aussi de cette expérience. On va, c'est le projet de cette émission, essayer d'en savoir un peu plus sur vous, ce qui vous a amené à devenir l'artiste que vous êtes, les méthodes de travail. Pour commencer, une madeleine sonore. Ce chant yiddish, une langue que vos parents parlaient avec vos grands-parents, avec leurs frères, avec leurs sœurs. Sandrine Kiberlin, vos quatre grands-parents sont en effet juifs polonais. Vous avez des souvenirs de cette langue, de cette culture, de cette gastronomie aussi. Pareil, vous aimiez bien regarder votre grand-mère maternelle cuisiner. Quel est selon vous, en fait, l'héritage de cette histoire familiale? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui fait partie de vous qui vient de là?
Mais je pense que là, immédiatement, quand j'entends la langue, ma mère parle encore yiddish avec sa sœur. Hein. C'est, ouais. Je pense, les dernières qui me permettent d'entendre cette langue que j'adore, qui est ronde comme ça, en même temps, oui, qui me rappelle mon enfance, mes grands-parents, tout ce que vous venez de dire. Je pense qu'ils m'ont laissé une force de vie, j'allais dire, une espèce de courage. Évidemment qu'il y a l'héritage de cette folie, de cette incompréhension, de sans doute aussi une peur latente, permanente, que quelque chose d'aussi fou nous tombe sur la tête, puisque rien n'était raisonné, raisonnable, contrôlé, contrôlable, enfin... Mais du côté de mes grands-parents maternels, dont j'étais plus proche, il y avait vraiment une envie de construction, une confiance dans les enfants qu'ils ont eus, une envie d'être français, d'apprendre la langue. C'est ma mère qui a appris à conduire à mon grand-père. Enfin, bon, tout. Et il y avait chez eux une envie aussi de plus parler de l'horreur, mais parler du futur, parler de s'en remettre presque à nous, à ce qu'on allait leur donner comme pulsion de vie, comme. Et aller de l'avant, en fait, aller de l'avant. Et la plainte a jamais fait partie de mon éducation. Bien au contraire, en revanche, on m'a inculqué, je crois, cette idée que tout est éphémère, qu'il faut profiter, qu'il y a quelque chose. Et c'est assez fou parce que, mais je pense que voilà, ils sont des rescapés, hein, sont des survivants de la Shoah et de cette folie. Donc il y a une, c'est double. C'est à la fois pourquoi on est miraculé et pourquoi pourquoi en reparler puisque c'est voilà puisque c'est derrière. Il faut avancer, il faut faire de ça une force de vie quoi.
Force de vie, évidemment et visiblement transmise à vous notamment, Sandrine Guiberna, avec beaucoup de passions artistiques nombreuses. La musique, le dessin, la comédie, bien sûr. Qu'est-ce qui vient en premier dans votre enfance ou adolescence?
Oh, la comédie, c'est sûr. Enfin, le dessin, je pense, en tout premier, c'est vrai. Le dessin, comme quelque chose de très instinctif, très vite, j'ai aimé ça. J'ai pris des cours aussi. Mais voilà, c'était la première façon de m'exprimer. Alors, plus en reproduisant des choses qu'en étant vraiment, en me sentant libre d'inventer des choses en les dessinant. C'est venu plus tard, ça, quand j'ai passé des concours, les Beaux-Arts et tout ça, ou Penningen, où là, vraiment, j'étais... Et quand c'est devenu, d'ailleurs, plus un travail ou un devoir, ça, j'ai lâché, mais surtout parce que le théâtre est arrivé. Et je dirais très vite la comédie, parce qu'à l'intérieur même de ma famille, où j'étais plutôt une enfant observatrice et assez solitaire, avec une grande sœur, elle, plus en bande et plus extravertie, je crois, que moi. La comédie, c'était très vite une façon de me faire aimer autrement, donc un moyen d'être moins transparente. Et j'imitais absolument à peu près tous les gens que je croisais, de catégories sociales différentes. Quand je partais en colo et tout, je revenais avec des petits spectacles dont mes parents, mes cousins, ma tante étaient les premiers spectateurs. Et là, j'ai compris que c'était un truc...
Le pouvoir, quand même.
Oui, enfin, surtout...
D'être regardé, d'être
plus intéressante. Vous voyez, d'être plus aimée, plus regardée, effectivement. Enfin, ça vient toujours d'un manque, l'envie du grand écran, l'envie de... Et puis, il y a eu la passion du cinéma aussi, puisque j'avais des parents qui nous emmenaient beaucoup au cinéma. Et beaucoup écouter des musiques et beaucoup qui étaient très 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 fou de la culture en général quoi.
La musique, bon, ça a été un désir exaucé dès 2002. D'abord en écrivant des chansons pour Johnny Hallyday, pour Florent Pagny. Vous avez chanté avec Patrick Bruel et puis il y a vos albums. Premier album avec la complicité de Camille Bazbaz, c'était Manquer plus que ça en 2005. Un deuxième en 2007, Coupé bien été bien carré, avec des musiques, excusez du peu, d'Étienne Dao, de Mickey 3D, d'Alain Souchon. Encore récemment, vous avez chanté en duo avec Julien Clerc, avec Étienne Dao. Mais la pratique de la musique, alors, à moins que je sois mal informée, semble moins vous occuper, Sandrine Guiberna, depuis quelques temps.
Oui, c'est vrai. Alors, le premier album, c'était déjà, et c'était celui qui avait fait que j'ai sauté le pas, c'était vraiment Souchon.
En fait, il y a eu une rencontre...
Parce que j'ai écrit toutes les paroles, mais je savais pas que ça allait devenir des vraies chansons. En fait, c'est un éditeur avec lequel je travaillais à l'époque qui m'a dit, mais c'est, voilà, une chanson, c'est un petit miracle. Et là, j'ai l'impression qu'il y en a. Donc, à qui penser pour la musique? Et le désir fou de, il y avait Bazbaz parce que je l'ai connu par Pierre Salvadori avec qui j'avais fait un film qui s'appelait Après vous. La chanson de Bazbaz m'avait beaucoup impressionné. Et Souchon, c'était comme un rêve un peu fou, mais il m'a dit voilà, écris un texte et peut-être ça lui parviendra. Et il a attendu un temps et un jour j'ai eu un coup de fil où il m'a dit voilà, je t'ai écoute. Et il avait écrit la musique de Manquer plus que ça. Donc je sais pas si vous imaginez, j'étais au téléphone en Corse et j'entends quelques mois plus tard, en plus où j'y croyais vraiment plus. Il me dit la gamine, alors voilà, je t'ai écrit ça, et puis on a adoré les autres textes, donc on va travailler avec Pierre, et puis c'est devenu des chansons, un peu sans que je m'en aperçoive, tout en m'amusant à les faire avec eux. Le studio est devenu vraiment une suite logique d'amusement et de joie de travailler ensemble, jusqu'à ce que je reçoive l'objet, le disque chez moi, et là je réalise que les gens allaient écouter la godiche, les... m'envoyer des fleurs, et là, c'est devenu concret, mais ça m'a un peu dépassée. Après, comme je vais souvent au bout de l'aventure que je commence, il y a eu la scène, il y a eu le minibus où mes musiciens m'en voulaient de rentrer le soir, même de loin, pour emmener ma fille à l'école le lendemain. Mais je l'ai fait, j'ai fait 50 villes, l'Européen, la Cigale, la peur au ventre, le trac dans les coulisses et tout, mais je l'ai fait.
Quel plaisir, quand même.
Ah bah, génial. Non, franchement.
Une fois sur scène.
Oui. Oui, mais j'aimerais le refaire. J'en profiterais mieux aujourd'hui parce qu'à l'époque, c'était violent quand même, ce truc de chanter ces textes, ces chansons devant des gens. Il y avait quelque chose, j'étais habituée à me cacher derrière des personnages, l'univers d'autres cinéastes. Là, tout à coup, il y avait une exposition qui ne m'allait pas. Franchement, au moment des bravos et de la réception des gens et d'entendre Sandrine, enfin des trucs comme ça, les gens qui chantaient, c'est à la fois tellement gratifiant et évidemment fantastique, mais il y avait un côté exhibitionniste là-dedans que je trouvais très violent. Et au moment des bravos, je voulais rentrer dans les coulisses et c'était bizarre.
Pourtant, l'amour que vous cherchiez enfant, là, il est là, dans une salle de concert.
Oui, mais fait, je pense que je devais le chercher...
Masqué.
Oui. Je devais le chercher protégé, voilà. Ouais. Protégé.
La musique, elle occupe quelle place aujourd'hui dans votre vie ou dans des
projets?
Il y a des projets. Non, mais il y a des projets aussi pour vous.
Bah là, je recommence à faire des chansons avec Alain et Pierre, son fils. Et on fait ça vraiment, c'est le rêve parce que je leur donne des textes et comme par miracle, ils trouvent vraiment le sens de la chanson que j'imaginais, le sens de la musique qui va avec. Avec mes émotions, enfin c'est une rencontre vraiment.
Faut dire qu'ils sont un peu doués, ces deux-là.
Mais au-delà de doués, mais je veux dire c'est même le monde à l'envers que j'ose écrire des textes face à Alain Souchon qui pour moi est plus qu'un auteur, enfin c'est plus qu'un poète. Enfin je sais pas ce qu'on peut dire de lui qu'on n'a pas encore dit, mais d'être aimé de lui, enfin qu'il ait aimé les paroles me. Je me suis dit, j'ai plus le droit là d'échapper à ça, il faut que j'y aille. Et donc, c'est des belles rencontres.
Bon, première bonne nouvelle, retour de Sandrine Kimerlin, autrice, chanteuse.
Ça arrive, ça va.
Oui, c'est pas grave, ça va arriver.
Il faut travailler.
Pour autant, c'est pas Alain Souchon qu'on va écouter, vous avez eu envie, on vous a demandé quel morceau vous vouliez écouter. C'était une chanson de Feu de Chatterton, avant qu'il n'y ait le monde. Raison de ce choix, avant de l'écouter.
J'aime beaucoup ce groupe. J'ai connu il y a longtemps Arthur Teboul. Enfin, j'ai suivi son parcours. Je trouve qu'il a un talent fou. Je trouve qu'il est un de ceux qui compose et qui écrit de façon nouvelle. Enfin, il y a quelque chose de singulier chez ce garçon et chez eux. J'aime les écouter, j'aime les voir sur scène. Enfin, il y a quelque chose de très très artistique et très personnel d'inventer là et qui m'a touchée. Et cette chanson en particulier, je trouve qu'elle est, elle a une ampleur, une envergure, une émotion un peu cinématographique, romanesque. Je sais pas, quelque chose qu'il a, cet Arthur Teboul.
Écoutons.
Si je fais mes cils charbonneux et mes yeux de plus de lumière et mes lèvres plus écarlates demandant à tous les miroirs si tout est comme je veux, nulle vanité je recherche, le visage qui fut le mien avant qu'il n'y ait le monde. Pourquoi me dire cruel? Pourquoi se croire trahi? Je le veux aimant ce qui fut avant qu'il n'y ait le monde. Avant qu'il n'y ait le monde. Qu'importe si je regarde un homme tout comme si c'était mon amour quand pourtant mon sang est demeuré froid, mon cœur ne bat pas plus vite. Pourquoi me dire cruel? Pourquoi se croire trahi? Je le veux aimant ce qui fut avant qu'il n'y ait le monde. Avant. Thank you. sang est demeuré froid. Mon cœur ne va pas plus vite. Mon sang est demeuré froid. Mon cœur ne va pas plus vite qu'avant, qu'avant. Pourquoi se croire trahi? Je le veux aimant ce qui fut avant qu'il n'y ait le monde.
Feu Chatterton.
Je ne m'en lasse pas.
Choix bienvenue de Sandrine Kiberna. Alors on a parlé. A évoqué dessin, musique, bon, c'est le théâtre qui l'emporte, hein, vous l'avez dit, passant par le cours Florent, passant par le conservatoire, on parlait de Daniel Mesguich la semaine dernière avec Guillaume Gallienne, pour l'importance qu'il avait eue dans sa formation, vous aussi, mais c'est le cinéma qui vous ravit tout d'abord, Éric Rochant pour le très sous-estimé Les Patriotes que j'adore, Laetitia Masson pour En avoir ou pas, ça vous vaut un César de meilleur espoir féminin en 96, le théâtre quand même, un appel un peu irrésistible avec une pièce écrite par votre père, le roman de Lulu, qui vous vaut le Molière de la révélation théâtrale en 97, Sandrine Kiberna. Sur le plan comme ça, comptable, objectif, on a l'impression que ça va très vite, que ce sont des débuts sur les chapeaux de roue. Comment vous vivez ces premières années-là professionnelles, vous?
Bah, vu les, oui, comme ça, quand.
Résumé en.
Oui, résumé comme ça, même moi, là, je me dis, waouh, c'est assez, idéal comme
c'est
ça.
Vrai.
Mais ça l'a été, hein, d'ailleurs. Mais il y a plein de choses à vous raconter entre les lignes. C'est-à-dire que vous parlez de Mesguich, vraiment, c'est celui qui m'a vraiment donné confiance en moi. Mmh. C'est
Guillaume Gallienne a dit exactement la même phrase.
Ah, c'est vrai? Mmh. Oui, parce que il s'attachait à la personnalité de chacun et plutôt que de nous emmener vers ce qui avait déjà été fait, il nous suggérait vraiment très fort de rester qui on était. Et donc moi qui avais des exemples d'actrices comme ça, que j'avais tellement aimées, et puis à qui on disait, donc ça c'est pour revenir au fait moins facile, à certains castings, que je cadrais pas avec ce qui était déjà, ce qui les rassurait, c'est-à-dire retrouver la nouvelle Adjani, la nouvelle Isabelle Huppert, la nouvelle, parce qu'ils aiment beaucoup, ils ont du mal à accueillir les différences, encore aujourd'hui et encore partout. D'ailleurs, la différence, c'est quand même un sujet dont on n'a pas fini de parler et dont il faudrait qu'on se débarrasse vraiment. Mais en attendant, cette différence, quand vous êtes en face de Mesguich, devient votre qualité. Et ça n'a pas de prix, parce que tout à coup, il vous pousse à aller dans cette différence et il vous pousse à trouver ce qui va vous amuser là-dedans, ce qui va vous ressembler vraiment, ce qui va... Et ça c'est vraiment, pour un artiste qui se découvre, c'est un cadeau, quoi, parce que d'abord, il sait l'accueillir. Je pense toujours aux acteurs qu'on a découverts qui étaient comme ça, qui ont eu des personnalités folles. Je pense qu'ils ont remercié toute leur vie les premiers qui les ont regardés, qui les ont choisis.
Et Belmondo ont été... et Godard, pour parler de dans l'actualité.
Mais tellement. Belmondo.
Fallait y aller pour l'engager.
Il était tellement singulier, il était tellement. Bon, moi, je pense que j'aurais été charmée en deux secondes, mais d'ailleurs, il n'avait pas de mal à charmer les filles, je pense. Mais de là à en faire à le mettre sur un grand écran et à penser qu'il allait devenir irrésistible pour, et ce qu'il est devenu. Voilà, ça, c'est le regard de celui qu'on attend qui va comprendre que, justement, ce qu'on appellerait des défauts au départ deviennent notre signature et deviennent notre force. Et quelqu'un comme Mesguich, quelqu'un évidemment comme Rochant, parce que moi, effectivement, je suis passée par le conservatoire parce que je trouvais que ça rassurait d'abord mes parents, ma famille, qui avaient confiance en moi, mais qui avaient besoin d'un cadre. Et moi aussi, hein, pour les défendre un peu, j'avais besoin d'un cadre très rassurant pour oser être complètement zinzin à l'intérieur, me permettre toutes les folies, rencontrer des gens qui allaient m'emmener dans des univers que je connaissais pas, mais ce cadre-là me le permettait pour mieux en sortir après. Et c'est Rochant qui m'a choisi comme ça. Alors lui, ça a été oui, je me souviens encore de l'impression physique quand il m'a dit que c'était moi qui avais été choisi, alors que le producteur voulait pas, alors que c'était un gros film avec beaucoup d'argent. C'était vraiment un film, il sortait d'un gros succès, le film est allé à Cannes. Enfin, je savais que c'était une grosse production et tout ça. Et quand il m'a dit c'est toi, j'ai eu l'impression que voilà, ma route allait commencer et que j'allais pouvoir, parce que j'ai toujours su, sans aucune, je le revendique pas, mais je le sais, que c'est ma place d'être actrice, qu'il n'y avait pas de, que c'est, j'avais pas de doute, si vous voulez, sur le fait de d'usurper ma place ou de pas du tout. J'ai toujours eu la certitude que, au même titre que d'autres actrices que je trouvais exactement à leur place, j'avais la mienne.
Là, c'est une force.
Une grande force.
C'est pas si fréquent.
C'est la passion, en fait. Quand un menuisier, tout à coup, sait que sa passion, c'est la menuiserie. Moi, je savais que ma passion, c'était le jeu. Les textes, les rôles, incarner un personnage, rencontrer justement des cinéastes avec un regard différent sur la vie, les choses.
Alors, on va parler vraiment d'actualité avec la sortie de ce film Chronique d'une liaison passagère. Je ne suis pas toujours très friand des bandes-annonces, que je ne trouve pas toujours réussies, mais celle-ci est vraiment bien, celle du film d'Emmanuel Moret, donc on l'écoute.
J'avais rien prémédité du tout à cette soirée, hein. Ça faisait bien longtemps que j'avais pas embrassé une autre femme.
On va boire un verre ou deux, mais je ressens une envie irrésistible de faire l'amour avec toi.
Voilà, ça va vite là. J'ai pourtant tout bien fait comme il faut, hein. J'ai parlé de ma femme, de mes enfants, et que j'étais sans doute pas à bon plan.
Ah non, ça tu me l'as pas dit. C'est simple, on ressent une attirance l'un pour l'autre. On se plaît, on fait pas de plan sur la comète. Arrête avec cette idée de tromper ta femme. Tu l'aimes ?
Ah bah oui.
Bah voilà, bah donc ça veut dire que tu la trompes pas. Nous, on se voit pour d'autres choses. On va profiter du temps qui nous reste. On va se faire du bien, sans penser au futur.
Tu veux prendre une douche avec moi ?
Non, je veux garder ton odeur. Ça content. Tu veux dire que t'es bien ?
Non, autre chose que bien, je suis content.
T'es content de toi ?
Non.
Bah, tu pourrais l'être, hein, si t'es bien.
Non, ce que je veux dire, c'est que je suis content de vivre ce que je vis là. Même si on fait rien, pour moi, te voir, c'est déjà sexuel.
Elle est vraiment bien, cette bande-annonce. Bravo à celles et ceux qui l'ont fait.
Décidément, c'est bien, quoi.
Ouais. Alors, je souhaitais d'autant plus l'écouter, cette bande-annonce, André Kiperlin, parce que j'avais envie qu'on évoque la musicalité d'un personnage. Parce que là, on a entendu très bien dans cette bande-annonce Vincent Macaigne et vous, un duo très contrasté. Comment ça se trouve, la voix d'un personnage ? Comment ça se trouve, le rythme de cette Charlotte ? Quel travail vous faites, vous ? Avant le tournage.
C'est intéressant que vous parliez de ça, parce que pour moi, c'est ce qui fait la différence d'une personne à une autre, et donc d'un personnage à un autre. Et c'est le rythme de quelqu'un, c'est la voix de quelqu'un. C'est marrant, pendant la bande-annonce là, je me disais, qu'est-ce que j'aime la voix de Vincent? Cette façon qu'il a de prononcer les mots, d'être singulier dans sa façon de dire les choses, de les rythmer, et ce personnage-là lui va justement comme un gant, parce que ça Voilà, ça fait corps avec quelque chose qui est à la fois émouvant et drôle. Et je sais pas comment ça, je ne sais pas comment ça naît, sinon, en lisant le scénario, j'ai l'évocation d'un personnage, d'un costume, d'une allure. Je sais qu'elle va vite, que son débit est rapide, que donc elle va aller vite, que ça va, qu'elle est assez affirmée dans ce qu'elle fait. En fait, c'est comme si la succession d'adjectifs que je me mets dans la tête à son sujet me donnait le rythme de son corps, de ses gestes, de et puis là, après la voix, ça vient avec la situation en fait, avec l'émotion, avec la situation. Il y a des voix qui se brisent à un moment parce que il y a une douleur qui arrive qu'on n'attendait pas. Il y a des la voix de Charlotte, elle est plutôt assurée au début. Elle parle peut-être plus fort que lui, ou alors elle chuchote parce qu'elle est maline et que elle sent bien que c'est pas le moment de parler plus fort.
Elle est très maline.
Elle est maline, donc elle a une voix avec laquelle elle ne joue jamais, je pense pas. Elle calcule pas. Elle est très spontanée, donc c'est une voix assez directe en fait. Mais je me suis rendu compte, c'est drôle parce que je regarde pas mes films. Enfin, les films dans lesquels je joue, je veux dire, je les vois finis. Je les ai tous vus par respect, ne serait-ce que pas pour l'équipe et évidemment le cinéaste, mais. Et vraiment, je me suis toujours dit que ce qui changeait d'un rôle à un autre, c'était la voix. J'ai revu très brièvement le début juste d'un film dans lequel je jouais, c'était En avoir ou pas, et ma voix était complètement différente de la voix un an avant, pourtant seulement, des Patriotes. Donc il y a vraiment, c'est un personnage qui détermine la voix que je vais avoir, je sais pas, de la douceur ou de la gravité ou de la rapidité dans le débit qui change la tessiture, c'est comme un musicien un peu. C'est vraiment un travail de faire corps avec le rythme d'une personne.
Il me semblait bien que cette question de la musicalité et du rythme vous importait, parce qu'on le ressent très 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 finement. Alors, il y a différentes façons de se préparer. Adèle Exarchopoulos, qui était là la semaine dernière, elle s'est très acteur studio, immersion dans les métiers, etc. Isabelle Huppert, avec qui on en parlait il y a pas très longtemps, elle dit que c'est costume, les chaussures, beaucoup,
aussi, beaucoup,
pour la démarche.
Beaucoup.
Vous êtes plutôt à sentir le personnage.
Oui, je suis plus à le construire un peu inconsciemment. Et les choses plus conscientes, c'est vraiment de l'ordre du costume. Le costume, c'est pour moi, c'est très très intéressant, parce que j'ai du mal au début à mettre le costume. Et à la fin du film, à le mettre. Au milieu, je le mets. Mais je veux dire...
À la fin, de l'enlever, vous voulez dire ?
Non, de le mettre.
Au début et à la fin.
D'accord, pardon. Au début, j'ai du mal à le mettre, parce que je quitte qui je suis pour devenir. Et du coup, c'est endosser le personnage vraiment, et je deviens, et je laisse tomber donc ma vie, un peu, je la mets entre parenthèses, et j'ai pas envie au départ, moi. Mais je mets le costume et je deviens Charlotte. Et elle se dessine avec ça. Elle se dessine avec le pantalon un peu court, l'allure un peu masculin, féminin. Enfin, il y avait quelque chose à trouver là-dedans. Elle a des pantalons chinois. Enfin, elle a une fantaisie qu'il fallait trouver. Et donc, hop, le costume nous apporte ça. Et après, j'ai du mal, à le mettre les derniers jours, comme si je sentais que la fin approchait et qu'il y avait un décompte et que du coup, j'allais quitter le personnage et que du coup, j'étais déjà un peu plus Sandrine. Un peu plus moi, et du coup, il fallait quand même que je tienne et que je reste Charlotte. Enfin, et après, il y a là, en l'occurrence, vraiment une tristesse de quitter parfois les personnages et les films. Mais ça passe par le costume beaucoup, beaucoup. Je suis plus comme, pas du tout comme Adèle Exarchopoulos, que j'admire beaucoup. Toutes les deux actrices que vous citez, je les admire beaucoup pour des raisons différentes, mais alors pas du tout à vouloir rencontrer un personnage que je joue s'il existe, ou alors faire
le métier, un stage.
Non, pas du tout.
Du tout.
J'ai juste appris le violon 6 mois pour Mademoiselle Chambon, mais c'était obligatoire.
Pas mal ça quand même. Mais dans ce rôle de Charlotte, comme dans beaucoup d'autres, mais singulièrement celui-ci, on l'a entendu, il y a beaucoup de choses qui se disent. Alors ce qui se dit n'est pas forcément ce que pensent les personnes qui le disent, mais ça, c'est encore autre chose. Mais il y a beaucoup de nuances dans les regards, dans les sourires de votre part. Est-ce que ce sont des propositions qui sont pour vous différentes d'une prise à une autre ? Est-ce que vous essayez des choses ?
Oui, et en même temps, je vous avoue que oui, je me laisse aller à la situation. Donc comme je m'abandonne, je ne fais pas attention à... Je ne sais pas ce que j'ai fait avant. Donc je ne sais pas ce que je vais faire après. Et je suis pas de ces acteurs qui vont, vous savez, regarder le petit écran pour voir ce que j'ai fait, parce que d'un seul coup, le réalisateur dit « Ah, c'était super !» Non, je vais me remettre dans la situation qu'elle a à vivre, que Charlotte a à vivre avec Simon. Et c'est l'instant où action, et il se passe ce qui se passe. Alors, évidemment, comme la situation est la même... on passe pas d'une façon de la jouer à une autre. Il n'y a pas non plus des montagnes russes. Hein. Ça reste. Mais en fonction aussi de mon partenaire, de l'écoute, de ce qu'on a à jouer ensemble. Si lui change quelque chose, ça va forcément changer quelque chose. Je reste très abandonnée quoi à la situation et au moment où les choses se passent.
Alors du coup, j'ai quand même évoqué votre film, celui que vous avez réalisé, Une jeune fille qui va bien. Alors vous avez déjà réalisé un documentaire en 2015 sur l'association J'ai un trou de mémoire.
La chaîne de l'espoir.
Merci beaucoup. C'était sur un orphelinat en Thaïlande. Ouais. Et puis il y avait une fiction, un court-métrage en 2016, Bonne figure. Mais là, dans Une jeune fille qui va bien, c'est très intéressant de voir comment vous regardez Rebecca Marder, qui est quand même quasiment de tous les plans de ce film-là. Alors très 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 bien entourée pour chacun des rôles. Il y a beaucoup de mes grandes admirations dans votre film. Mais qu'est-ce que vous avez appris, vous, de l'autre côté de la caméra, sur ce travail des comédiennes et des comédiens?
Oh là là, bah, j'ai adoré leur donner ce qu'on m'a donné, peut-être, je sais pas, je les adore, les acteurs. J'ai vraiment...
Ça se sent, hein.
Ouais,
vous les aimez, les gens que vous filmez.
Je les aime, j'ai vécu avec des acteurs, enfin, je comprends la fragilité des acteurs, Oui, ils me touchent, il y a quelque chose... Et là, j'étais entourée beaucoup de jeunes acteurs et j'ai un peu traversé un peu toutes les générations. Là, devant ouais. Moi, il y avait évidemment le groupe des jeunes, dont Rebecca, qui était centrale avec Anthony Bajon et Ben Attal et voilà.
Et India R.
Et India qui est
ma chouchou.
Qui est,
parce que ce regard final.
Mais qui est.
Il n'y a pas beaucoup de gens.
Immense actrice avec qui je rêvais de tourner et j'ai écrit le rôle pour elle.
Je vous comprends.
Incroyable, et je pense qu'on n'a pas fini d'être étonnés. C'était génial de les filmer, quoi, d'essayer de les magnifier, d'essayer de leur donner. Enfin, ils me donnaient déjà tellement, mais je veux dire de les parfois de rien leur dire, mais de les emmener dans cette histoire, de les emmener, de les filmer, de bien les regarder, d'être toujours au bon endroit, d'essayer de voir là où ils étaient le plus beau, là où ils étaient. J'aime beaucoup aussi qu'ils soient pas aseptisés. Je les décoiffais beaucoup. Ça a l'air idiot, mais je les prenais un peu comme ils étaient. C'est pas parce que je faisais un film sur cette époque-là que j'allais les transformer. Non, je les ai pris pour leur nature, pour ce qu'ils étaient, et j'avais envie de filmer ça de Rebecca. Et d'ailleurs, quand j'ai choisi Rebecca, comme India, comme Anthony, comme tous ceux que je viens de citer, comme Françoise Vidoff, comme André, Marcon et tout. Je les ai pris parce que c'est eux que j'aimais au départ. C'est eux que j'ai aimés, soit dans la vie, soit dans des rôles, soit. Donc il n'était pas question pour moi de les transformer, de les abîmer, de les. C'est Isabelle Huppert qui a dit ça aussi. Elle a dit c'est un documentaire sur un acteur, un film. Et moi j'ai fait un peu un documentaire sur eux aussi, même si tout était très écrit. Mais j'avais besoin de trouver, par exemple, en Irène, je rentrais chez moi, j'ai vu beaucoup de très très bonnes actrices de cet âge-là, mais Rebecca Marder est arrivée dans le bureau et j'ai eu envie de la connaître, elle, en fait. On a commencé à discuter ensemble et je me suis dit, elle, je veux qu'elle rentre dans ma vie. Je veux qu'elle soit l'héroïne de mon film aussi. Mais c'est l'idée, c'est de filmer des personnes qu'on aime, quoi.
À propos de personnes qu'on aime, une assez courte archive, il y aura un tout petit temps de réponse ensuite, mais je voulais vous faire entendre Jean-Louis Trintignant dans La Voix Nue au micro d'Armel Élu en 2004.
Merci.
C'est une chose que j'ai apprise en étant comédien, c'est que je crois que pour être comédien, il faut garder vraiment une âme d'enfant et il faut surtout ne pas avoir de certitude, il faut se remettre en question, il faut s'émerveiller, il faut croire aux choses, même si après on se dit on a eu tort, mais il faut s'enthousiasmer, il faut garder vraiment une âme d'enfant. Je pense qu'on peut pas être comédien si on perd ça. Je le dis d'autant plus que j'ai 73 ans et que je pense l'avoir encore. C'est pour ça que je continue à jouer un peu. Mais si je perds ça, vraiment, j'arrêterai de jouer. J'aurai plus aucun intérêt comme comédien.
Comment vous entendez
ça ? Ma voix préférée.
C'est vrai ?
Ouais, vraiment. Ma voix préférée. est un des acteurs que j'ai préféré.
Et ce qu'il dit ?
Bah, ce qu'il dit, bah, c'est simple, hein, c'est le jeu, quoi. Le jeu, c'est on joue. On joue, quand on est enfant, en fait. Donc, si on choisit de faire ça encore et toujours, c'est pour retrouver ça, c'est pour retrouver ce qu'il dit, c'est-à-dire juste le plaisir de ça, le plaisir du jeu, comme quand on est enfant, le plaisir. Puis ne pas perdre ça, juste le. Voilà, ne pas oublier l'instinct du jeu.
Alors, courte plainte, quand même, pour finir, de ma part.
Ah.
Quand est-ce que vous revenez au théâtre ?
Ah, mais alors moi, je suis d'accord avec vous. J'ai non, très envie d'y
revenir. Passons le message, alors.
Non, mais vraiment, mais pas trop longtemps. En fait, ce qui me rend... Mais maintenant, ça se fait. Et puis, j'ai envie qu'on me désire au théâtre. Or, je pense que j'ai tellement dit que j'avais plus peur qu'envie, que je voulais pas que ça dure trop longtemps, que j'avais peur de cette vie comme ça, à répétition, etc. Mais là, j'ai très envie d'y revenir, mais avec des metteurs en scène qui m'emportent. Mais j'ai un beau rôle au théâtre, ce serait à nouveau quelque chose que je peux envisager avec plaisir, ouais.
Bon, bah comme ça, ma plainte sert à faire passer un message qui est très bien comme ça. Merci infiniment, Sandrine Kiberlin, d'avoir été ce soir mon invitée. Alors, je rappelle que vous êtes à l'affiche du nouveau film d'Emmanuel Mouret, Chronique d'une liaison passagère, sorti aujourd'hui sur les écrans, et que votre premier film, en tant que réalisatrice, Une jeune fille qui va bien, est disponible en DVD, en Blu-ray et sur Canal+. Il est aussi en VOD, on ne peut pas le rater. Merci, merci Sandrine Kiberlin.
Merci beaucoup.
France Culture, Affaires culturelles, Arnaud Laporte.
C'est maintenant l'heure d'Affaires critiques. Bonsoir Lucille Como.
Bonsoir Arnaud.
Ce soir, vous nous parlez d'un film sorti aujourd'hui sur les écrans, son titre « Tout fout le camp », il est signé Sébastien Bête-Bédé.
Ces derniers mois ont vu fleurir sur les grands écrans plusieurs films sur les élections municipales. L'un par exemple, « La campagne de France », était un documentaire sur un candidat issu du mouvement des Gilets jaunes en Indre-et-Loire. Un autre, municipal, suivait un acteur venant briguer une mairie dans les Ardennes et constituant une équipe à partir de rien. D'une certaine manière, le film de Sébastien Bête-Bédé s'inscrit dans cette lignée puisqu'il met en scène Usé, un artiste qui s'était présenté aux élections dans sa bonne ville d'Amiens, qui est aussi celle d'Emmanuel Macron, avec un programme tout aussi punk que ses chansons. Au seuil du film, on rencontre Thomas. Il est journaliste au Courrier Picard et doit justement interviewer Usé sur son expérience aux dernières élections. Ils deviennent très amis, c'est comme un coup de foudre. Un soir, en sortant d'un bar, il tombe sur un cadavre abandonné dans une ruelle au milieu des détritus. Un cadavre qui se meut soudainement, se lève verdâtre et sanguinolent, et qu'il décide de ramener à sa sœur, tenancière d'un club de char à voile sur la côte. Le film prend dès lors des allures de road trip modeste mais fantastique, dans une Picardie aux allures de monde parallèle, où il se passe des trucs vraiment très bizarres.
Il y a beaucoup trop de choses bizarres. Vous parlez de char à voile, hier vous parlez d'Mbappé. Le programme tout aussi punk, j'ai cru que c'était Emmanuel Macron à l'instant. Non, bon, il se passe déjà beaucoup, beaucoup de trucs. C'est un résumé qui nous intrigue beaucoup.
Alors, il faut le dire tout de suite, j'ai beaucoup de mal, moi, avec le burlesque et le loufoque, des registres que je trouve très difficiles à assumer aujourd'hui. Comme si ce comique-là datait instantanément les films ou les spectacles. Au théâtre, je trouve ça particulièrement malaisant. Au cinéma, en général, ça ne me fait pas rire du tout. Donc, a priori, cette histoire de zombies qui vomit partout, d'Olibrius à trottinette et de punk marginal mais tendre, c'est pas mon truc. Deuxième grand sujet de méfiance, le casting. On retrouve à l'affiche trois noms de trois comédiens hauts en couleur, déjà des personnages avant même d'être des personnages. Donc Usé, ce fameux punk aux velléités politiques qui a une tête vraiment de personnage de BD et des airs de Michel Houellebecq en plus. Thomas Simeka, grand type qui vient du théâtre, hyper physique, souvent débordant d'énergie et de mimique. Et puis Jonathan Capdevielle, qui est par ailleurs metteur en scène et marionnettiste et qui est aussi sur scène un sacré morceau, un morceau gothico-queer pour le dire vite. Tous des comédiens hors du commun, des gueules, des corps. On pouvait craindre qu'ils ne s'annulent les uns les autres ou que le combo soit insupportable dans une surenchère du n'importe quoi. Eh bien non, ça marche. Le film est beaucoup plus fin que le début ne le laisse envisager, beaucoup plus étrange et d'une bizarrerie pas si convenue. Il y a notamment une longue séquence centrale qui se déroule dans une grande maison bourgeoise. sorte de manoir que les copains ont investi pour passer la nuit. Et au cœur, cette scène où déguisés et travestis, ils dansent, très bien, en soit dit en passant, dans une espèce de communion dégenrée. Souvent, ces scènes de danse sont ratées au cinéma, ça peut verser dans le clip. Ici, c'est très beau et ça change complètement la trajectoire du film. Se loge dès lors dans les relations qu'entretiennent les quatre personnages une tendresse authentique et un respect pas démonstratif, une espèce d'éthique commune qui donne au film une couleur humaniste très vive. On retrouve là, finalement, une intention politique du film qu'on croyait avoir perdue dans les péripéties, une manière sans surplomb, empathique, de filmer la France dite périphérique, la France en marge révélée par la formidable marginalité des personnages. C'est un peu l'inverse des films de Kerverne et Delépine, si vous voulez, qui ces dernières années avaient quand même une sacrée tendance à montrer des marginaux de la « France profonde » entre mille guillemets, sans les soutenir, sans les aimer, avec du coup un vrai problème idéologique, c'était le cas j'avais trouvé avec « Effacer l'historique ». À l'inverse, on sent à quel point le titre du film de Bette Bédé, Tout fout le camp, fonctionne comme une pirouette anti-réactionnaire qui fait un sacré appel d'air dans la comédie française.
Qui nous donne sacrément envie d'aller voir ce film après vous avoir écouté, merci Lucille Como, Tout fout le camp de Sébastien Bette Bédé depuis ce matin dans les salles. Et on passe de l'autre côté de la table, vers Marie Sorbier, bonsoir, pour Affaires en cours.
Bonsoir Arnaud Laporte.
Ce soir, vous vous demandez si notre rapport au temps a été durablement modifié suite à la pandémie.
Alors oui Arnaud, car la crise sanitaire a pendant 2 ans introduit dans la vie de chacun une appréhension du temps inédite, une difficulté à se projeter au-delà de l'immédiateté. Alors qu'en est-il aujourd'hui? Je suis allée rencontrer François Hartog pour comprendre les mécanismes à l'œuvre dans ce changement de rapport à notre histoire et à l'histoire avec une majuscule. François Hartog, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historien, spécialiste du rapport des civilisations au temps. Avant d'en venir aux contemporains, en quoi votre approche anthropologique, alors est-ce que c'est le bon mot, vous me direz, de cette notion, vous a permis de comprendre autrement le rapport humain que l'on a tous avec le temps?
Oui, alors anthropologique est un bon mot, parce que, en effet, mon premier intérêt pour le temps, ou jusqu'à ce que le temps devienne cet objet sur lequel j'ai quand même travaillé depuis un quart de siècle, ça a été par la lecture des anthropologues. Avec un questionnement sur des temporalités autres que celles auxquelles nous sommes habitués dans le monde occidental. Et à partir de ces considérations sur ces temporalités autres, je suis revenu vers le temps contemporain, puisque mon objectif a toujours été de comprendre qu'est-ce qui nous arrive, enfin, ou du moins d'essayer, ou de contribuer à ma façon à ajouter un peu d'intelligibilité à quelque chose qui n'en a pas beaucoup, puisque dès lors que les repères du temps se brouillent, eh bien, la désorientation est profonde.
Vous citez notamment Lévi-Strauss dans le dernier ouvrage que vous venez de faire paraître, comme un des anthropologues qui vous a inspiré?
Oui. Alors, c'est presque paradoxal, puisqu'il est réputé de mépriser l'histoire, d'avoir eu des polémiques avec Sartre sur l'histoire, etc., etc. Mais quand Lévi-Strauss a proposé sa distinction toute théorique entre les sociétés chaudes et les sociétés froides, il a voulu dire que, évidemment, toutes les sociétés étaient dans l'histoire, toutes les sociétés avaient une histoire, mais que certaines avaient fait de l'histoire le moteur de leur vie. Nous, les sociétés moderne de l'Europe à partir de la fin du XVIIIe, nous avons fait de l'histoire le moteur de notre conscience de nous-mêmes. Bon, ce qui n'était pas le cas des sociétés qui étudient l'Amazonie ou des sociétés des hauts plateaux brésiliens qui étudiaient Lévi-Strauss. Et donc, il a été justement quelqu'un qui a été un initiateur et qui m'a permis ensuite de formuler cette notion ou ce concept de régime d'historicité pour marquer la façon dont les trois catégories du passé, du présent et du futur s'articulent.
Alors justement, voilà quelques mois, nous avons tous repris une vie sociale. Est-ce que vous constatez que nous sommes restés coincés dans l'urgence et l'immédiateté que vous dénonciez, enfin que vous rappeliez plutôt pendant le confinement? Est-ce que la projection dans l'avenir redevient possible?
Eh bien, je pense que l'urgence est toujours là, et même peut-être plus encore qu'avant. Alors, nous avons vécu dans l'urgence des urgences avec le Covid, sous la pression du virus dont on n'arrivait pas à maîtriser le cours. Mais plus profondément ce que j'appelle le présentisme, c'est-à-dire ce temps dans lequel, depuis une quarantaine d'années, presque un demi-siècle maintenant, nous nous trouvons où le présent domine, eh bien le présent, il est soumis pratiquement à la loi de l'urgence. Aujourd'hui, la crise climatique est perçue aussi ou est sous le mode de l'urgence. Donc on déclare l'urgence climatique, mais tout devient urgent. Tout est urgence. Et dès lors que tout est urgence, on ne sait plus comment arbitrer entre les urgences.
Justement, sur cette crise climatique, ça voudrait dire que notre façon d'être uniquement au présent nous empêche d'anticiper les solutions qui pourraient améliorer.
Oui, oui. Parce que le futur ayant perdu la force qu'il avait dans le 19e et en grande partie du 20e siècle, c'est-à-dire le futur était notre lumière. J'emploie cette image. Il éclairait. Alors là où nos sociétés devaient se rendre, et se rendre le plus vite possible, mais il jetait aussi la lumière sur le présent et sur le passé. Et donc nous savions ce qu'il fallait retenir du passé, nous savions comment envisager le présent, et nous marchions vers le futur. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des chaos ou des chutes, ou des... bon, bien sûr, mais il y avait une certaine évidence de ce mouvement. C'est justement ça qui s'est perdu. Et dès lors que cette évidence s'est perdue, qu'on a... plus que le présent, l'anticipation devient... On ne sait même plus très bien ce que ça veut dire. Hein. Vous avez cette expression qui revient tout le temps, par exemple pour les entreprises. Nous n'avons pas assez de visibilité pour embaucher, nous n'avons pas assez de visibilité pour faire ceci, pour investir ceci, etc. Bon, c'est la traduction, si je puis dire, de cette situation temporelle dans laquelle nous nous trouvons. Et nous nous en remettons aussi à la technologie. Nous feignons de croire que l'instantanéité du numérique est la réponse. Mais nous avons bien vu, avec la crise du Covid en particulier, qu'il ne suffit pas de faire 3 clics pour avoir des masques, quand tout le monde fait 3 clics en même temps pour avoir des masques.
Est-ce qu'on peut aussi mettre en parallèle le fait qu'on entende beaucoup cette expression du « c'était mieux avant » Est-ce que, comme on ne peut pas se projeter dans l'avenir, on se réfugie dans un passé un peu mythique ?
Bien sûr, mais ça, c'est pas quelque chose de nouveau. Dans les temps anciens, au Moyen-Âge, en Antiquité, jusqu'à l'époque moderne, il y avait cette idée forte que le passé était fournisseur d'exemples. Et donc on allait regarder vers le passé pour agir dans son présent. Et il est aisé de passer de cette valorisation du passé à une nostalgie du passé. Dans le temps moderne que j'évoquais, où le futur domine, le « c'était mieux avant » est le fait de gens qui récusent ce temps moderne pour différentes raisons, personnelles, politiques, et qui essayent de se placer dans une position, au sens propre, de réaction. Avec le présentisme, ce temps dominant, on ne sait pas trop bien... Alors le « c'était mieux avant » peut être tenté, mais c'est un « c'était mieux avant » assez illusoire, enfin, il est toujours illusoire, mais là, il est particulièrement illusoire parce que on n'a même plus vraiment le moyen de l'atteindre, ce passé.
Je renvoie à nos auditrices et auditeurs à votre ouvrage À la rencontre de Chronos qui vient de paraître chez CNRS Éditions dans la collection Les grandes voies de la recherche. Merci beaucoup François Hartog.
Et puis merci à vous Marie Sorbier, c'était mieux avant. Grande chanson de Daniel Darc qu'on va rajouter à la playlist d'affaires en cours. Et comme chaque soir, nous quittons ce studio, nous quittons Paris pour prendre des nouvelles d'artistes présentant leur travail un peu partout en France ou à l'étranger. Ce soir, nous sommes en ligne avec la compositrice Kaya Sahariao. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous serez l'invité d'honneur du Festival Musica qui se tient du 15 septembre au 2 octobre à Strasbourg. Une 40e édition qui nous intéresse ce soir avec vous. L'opéra qui sera joué à Musica, Only the Sound Remains, c'est une rencontre entre l'univers du théâtre no-japonais et la scène contemporaine. Vous dites à son propos, Kaya Sahariao, « Je me suis lancé le défi d'écrire un ouvrage intime » pour une grande salle. Alors comment est-ce que vous avez relevé ce défi, notamment avec quel instrument ?
Ok, il y a un ensemble instrumental de 7 musiciens, il y a un petit chœur de 4 chanteurs, et il y a 2 soloistes, un contraténor et un baryton. Mais ce qui remplit la salle, c'est en fait le traitement électronique de la voix de contraténor spécialement et quelques instruments. Donc le son voyage dans la salle et c'est très agréable si on a vraiment déjà une acoustique dans la salle qui est donc remplie ces sonorités qui en soi sont très fragiles et délicates.
Alors vous avez choisi pour cet opéra de mettre en musique deux pièces préexistantes, Always Strong, toujours fort, et Feather Mantle, manteau de plume. Qu'est-ce qui vous a attiré dans ces récits-là?
Mais théâtre, non, date bien sûr de il y a très très longtemps. Et il y a une spécialité dans toutes ces pièces, c'est que ils décrivent tous d'une manière différente la rencontre d'un humain et un être surnaturel. Et dans mon cas, donc, il y a un prêtre, il a un spectre qui vient de après la mort, un musicien et un soldat. Et dans le deuxième, il y a un pêcheur et une ange. Qui a justement ce manteau de plumes qu'elle oublie et que l'autre veut voler et amener comme trésor chez lui.
Alors, cela change avec le dernier opéra de vous que j'avais vu. Alors, celui-là est plus ancien. On est sur Sun Remains, remonte à 2016. On avait pu voir Innocence l'an dernier au Festival d'Aix-en-Provence, qui était une forme extrêmement différente, très, très rythmée, très découpée. Il y a bien plus longtemps encore, j'avais eu le plaisir de vous recevoir cette antenne avec Peter Sellars et Amin Malouf pour parler de Adriana Mater. L'opéra, qu'est-ce qui motive pour vous l'écriture d'un opéra, Kaya Saariaho?
Mais en fait, c'est beaucoup justement collaboration avec les artistes qui viennent de domaines différents. C'est quelque chose que je n'ai pas possibilité de faire beaucoup, sinon j'ai écrit ma musique dans mon studio et après j'ai joué dans les salles de concert. Mais une collaboration comme ça pour l'opéra, ça peut durer des années, ce qui est... Si tout va bien dans la collaboration, qui n'est pas toujours le cas, bien sûr, mais si tout va bien, les autres, ça rend la musique encore plus touchante et plus forte. Autre chose, c'est que dans l'opéra, s'il y a des personnages, ça peut créer un lien très, très personnel avec le public, parce qu'on s'identifie avec des figurines sur la scène. Et ça peut être, pour quelques-uns, vraiment une expérience très importante. Moi-même, j'ai vu cette œuvre qui m'a touché vraiment et qui m'a vraiment fait réfléchir ma propre vie aussi.
À Musica, il y aura notamment une soirée Kaya dans le miroir où il y aura de nombreuses œuvres instrumentales de vous qui seront données, mais il y aura aussi un autre soir, votre concerto pour harpe trans, qui est une pièce assez récente de 2015, ce qui sera interprété par l'Orchestre National de Metz Grand Est avec le harpiste Xavier Demestre. Dernière question, Kaya Saariaho, qu'est-ce qui vous a donné l'envie de mettre cet instrument, la harpe, à l'honneur?
Mais j'ai toujours beaucoup aimé l'harpe comme instrument, et j'ai utilisé ça presque toujours dans mon pièce d'orchestre. Et c'est juste vraiment très délicat, très fort, et j'ai voulu le sortir dans ses accords, dans ses arpèges romantiques et créer quelque chose de contemporain et un peu différent.
Merci infiniment, Kaya Saariaho, d'avoir passé ces quelques petites minutes avec nous pour parler de cette programmation qui vous est consacrée au Festival Musica à Strasbourg. Donc l'opéra Only the Sun Remains, les 16 et 18 septembre, Trans, dont on vient de parler, le 22 septembre, et puis cette soirée Kaya dans le miroir, le 17 septembre. Tout cela dans le Festival Musica à Strasbourg. Cette émission, comme toutes celles de la chaîne, est à écouter ou podcastée sur le site de France Culture ou sur l'application Radio France. Émission préparée avec Aïssa Toundoy, Boris Pinault, Anouk Minaudier, Lucille Comeau, Marie Sorbier et Apolline Limosino.